Je vous salue, mes frères et mes sœurs, dans le nom de Jésus. Je vous salue avec l'assurance que Dieu veut vous bénir. Il vous a déjà béni, il vous bénira encore jusqu'à son glorieux retour où nous aurons la bénédiction des bénédictions. Frères et sœurs, nous sommes venus au culte ce matin. Pourquoi faire ? Nous sommes venus pour écouter. Nous sommes venus pour accepter. Nous sommes venus pour regarder celui que nous sommes venus adorer, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ. Et pour cela, il nous aide lui-même par l'assistance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter à une réunion où les participants s'attendaient à tout sauf à ça. Mais ils étaient venus, bon, c'était l'habitude. C'était la routine, on vient, on suit. Or, ce jour-là, alors que c'était l'habitude, ils ont vu quelque chose qui les a marqués, ils ont entendu quelque chose qui les a profondément touchés, et je suis certain que lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils auraient bien voulu dire ce qu'il s'était passé, mais le Seigneur ne leur avait pas permis de dire ce qui s'était passé, tellement c'était beau. C'était extraordinaire que l'apôtre Pierre, qui avait sa langue bien placée, il n'a rien dit. Et quand il a voulu parler, l'Écriture nous dit qu'il a dit n'importe quoi. Il a été dépassé. Et ce matin, je suis persuadé qu'au culte, le Seigneur, dans sa grâce, veut nous dépasser. Dépasser tout ce que nous pouvons attendre. Il peut faire, ça vous le savez, frères et sœurs, infiniment au-delà de ce que nous lui demandons, mais aussi de ce que nous pensons et de ce que nous ne pensons pas. Alors je vous invite à regarder cette réunion. Elle se passe en plein air, dans l'évangile de Luc, oui, merci à Claude, chapitre 9, verset 28, un texte très connu et il se trouve dans aucun livre religieux de toutes les religions qui se passent dans le monde. C'est unique. Luc 9, chapitre 9 de l'Évangile selon Luc, et au verset 28. Luc 9, 28. Si vous le voulez bien, je commence la lecture. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint comme une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, et parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Et comme il parlait encore, Pierre, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en voyant entrer en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, et les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Et nous pouvons dire, si vous voulez bien, amen. Frères et sœurs, ce jour-là, ou cette nuit-là, ce moment-là, le ciel, je dis bien le ciel, est descendu sur la terre. Ce moment-là, pour la première fois, le ciel est descendu sur la terre. La Bible nous montre un spectacle tout à fait remarquable. Frères et sœurs, pourquoi le ciel est descendu sur la terre? Et ils ont vu, et ils ont entendu, et ils ont reçu ce que jamais ils avaient pu concevoir. Pourquoi sont-ils sur cette montagne? Eh bien, ils sont sur cette montagne, le but, c'est de suivre Jésus. Nous sommes d'accord. Pourquoi nous sommes dans cette salle ce matin? Le but, c'est pour être avec le... Très bien, donc on aime. Il monta sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques, non pas pour contempler le panorama et prendre de belles photos pour pouvoir mettre ça sur face de bouc. Non. Il monte sur la montagne, tous les quatre, avec un but, prier. Parce que Jésus aimait la prière. Pour Jésus, ce n'était pas une corvée, même des fois, il passait la nuit. Et il a entraîné ses apôtres, ses disciples, à aller avec lui sur la montagne, dans un but, non pas de tourisme et de vacances, mais dans le but de prier. Et l'Écriture nous dit, voilà, et pendant qu'il priait, le ciel est descendu sur la terre. Regardez, regardez, frères et sœurs. Sous forme d'image tout à fait remarquable, ils ont vu le visage de Jésus changer. Rappelons-nous que le visage de Jésus, avant cela, selon les prophètes, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Rien pour nous plaire. Et là, ce jour-là, quand ils ont vu leur maître, ils l'ont vu comme jamais ils l'avaient vu. C'était les traits d'un homme, mais c'était le visage de Dieu. Et ça, ça les a bousculés. Et ça a permis que ces hommes, ensuite, quand le Seigneur sera parti au ciel, cela a permis à ces hommes d'accomplir pleinement la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et frères et sœurs, regardez bien. Le visage de Jésus change. Et le visage de Jésus qui change, c'est surtout, on le sait, le visage de Dieu. Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. Mais vous avez remarqué, c'est précisé, ce qui a frappé les apôtres, c'est aussi une deuxième chose. Vêtements. Le micro. Le vêtement. Et le vêtement, on peut dire que c'est l'humanité de Jésus. Si bien que ce jour-là, ils ont vu deux choses. Pleinement la divinité de Jésus et l'humanité de Jésus illuminée, regardez bien, par trois rayons de lumière. Si on prend les évangiles qui parlent de ça, vous allez trouver ceci. Il nous est dit qu'ils ont vu des vêtements de Jésus blancs, plus blancs que neige. Aucun foulon sur la terre pouvait être aussi blanc. La lumière de Dieu, elle est pleine de blancheur, c'est vrai? Non? Blanc. La deuxième description de la couleur, c'est dans l'évangile de Marc, je vois. Il est dit que c'est devenu comme un éclair qui a frappé. Foudre. Et la troisième image, et qui est important, c'est que le visage de Jésus, lui, avait la forme du soleil. Mais pas un soleil parisien avec les brouillards de la pollution, mais le soleil qui brille, non pas simplement qui brille, mais qui brille dans toute sa force. C'est ça la lumière de Dieu, c'est la pureté. La lumière de Dieu, c'est le feu. Je me souviens avoir entendu un jour mon frère, le pasteur Barma, prêcher sur le feu de Dieu. Vous en souvenez? Et le feu. Donc, la lumière, c'est la clarté, c'est la blancheur. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a rien derrière. Tout est clair, tout est vrai, tout est juste. Ensuite, la lumière de Dieu, c'est comme la foudre, un feu qui descend du ciel, et troisièmement, la lumière de Dieu, c'est semblable au soleil quand il donne à fond ses rayons. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez croire en cette définition de la lumière? Oui? Bon, alors on va aller plus loin. On va y voir clair. Et cela s'est passé pendant que le Seigneur Jésus priait. Et ils ont eu aussi un tas de révélations sur l'humanité, vous allez voir, dans quelques instants, sur l'humanité et qui vit là-haut dans le ciel. Parce que dans le ciel, ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas des esprits vagabonds, ce sont des personnes. Et ça, on va le voir dans quelques instants. Et ça, mes frères et sœurs, cette réunion de prière a tellement marqué que l'apôtre Pierre, qu'il a tenu sa langue pendant au moins 60 ans. Parce que quand il a écrit son épître, la première épître de Pierre, et qu'il en parle, ça fait environ 60-65 ans que Jésus est monté au ciel. Donc il a gardé ça pendant 60 d'années. Et il dit, nous avons vu sur la montagne sainte. Et l'apôtre Jean, lui, va plus loin parce qu'il a vécu plus vieux, jusqu'à presque 100 ans. Donc il s'est rappelé ce qu'il avait vu il y a 80 ans. Et il dit, et nous avons contemplé sa gloire, nous avons touché. Et ça, mes frères et sœurs, pour vous dire que cette expérience que le Seigneur veut nous donner ce matin, c'est une expérience inoubliable. Comme leur conversion, quand vous vous êtes converti, le jour de votre conversion, le jour où vous avez donné votre cœur, c'est inoubliable. Eh bien, Seigneur, ce matin, transforme ce dernier jour de juillet en une journée inoubliable. Et cette journée devient inoubliable dans la mesure où le ciel descend. Mais il ne descend pas avec l'ordre d'un homme, il descend selon l'ordre de Dieu. Et cela nous amène, frères et sœurs, à voir comment ce matin, voir la gloire de Jésus. Vous remarquerez que les apôtres n'ont pas été aidés, humainement parlant. Non. Ils étaient apesanti.
J'étais fatigué.
Ils en pouvaient plus. Apesanti par le sommeil. Accablé par la tristesse. Parce que si vous avez bien lu, il est écrit que ça s'est passé après que Jésus leur avait parlé. Et leur avait parlé de la croix, de la mort, de la persécution. Alors là, ils voient quelque chose d'inoubliable et d'impensable. Et l'Écriture nous dit, ils étaient apesantis par le sommeil. Et vous savez que le Seigneur Jésus nous a dit, veillez et priez en tout temps. Ce que je dis, dit-il, je le dis à tous. Pasteurs, prophètes, enfants de Dieu, à tous, veillez. Parce que si je regarde attentivement, je m'aperçois que qu'est-ce qui nous endort, humainement parlant? Qu'est-ce qui nous prive de voir la gloire de Jésus? Vous le savez comme moi, c'est le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Alors là, ils l'ont vu, la gloire. La deuxième chose que je remarque, qui nous aveugle et qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est Satan. L'Écriture nous dit, il a aveuglé les yeux, il a aveuglé l'intelligence, et il a endurci le cœur, de peur qu'il ne voit et qu'il ne croit de Jésus et qu'il le suive. Le rôle de Satan, c'est de nous semer un somnifère dans le cœur, dans l'intelligence et dans la pensée. Et le troisième moyen qui peut nous endormir, vous le savez, frères et sœurs, c'est l'incrédulité. Jésus dira à Marthe, « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc, il y a le péché qui nous prive, il y a Satan qui nous éblouit, qui nous en met plein la vue et qui nous rend aveugles. Il y a aussi notre incrédulité, notre endurcissement qui empêche de suivre la grâce. Et puis, il y a un endormissement physique, parce que nous sommes des hommes, des femmes, et l'homme et la femme, créés par Dieu, ont besoin de sommeil et de repos. Vous me suivez? Bon, alors, on va aller plus loin. L'Écriture nous dit qu'un jour, Paul prêchait l'Évangile, je crois que c'est dans la ville de Troas. Il prêchait l'Évangile et la réunion a duré un peu longtemps. C'est très rare chez l'apôtre Paul, mais là, c'est un discours qui n'en finissait pas. Attendez, ce n'était pas une habitude. Hein. Ça n'en finissait pas parce qu'il savait qu'il devait partir. Il n'allait plus les voir, donc il y avait des choses importantes à dire. Et la réunion s'est terminée autour de minuit. Mais c'est exceptionnel, n'ayez pas peur, c'est exceptionnel. Puis il y avait des jeunes qui étaient là, dont un jeune homme. Parce que qu'une personne fatiguée, qu'un vieillard comme moi, des fois, s'endormir à la réunion, on le comprend, on dit, il est vieux. Mais un jeune qui entend et qui s'appelle Eutychus, qui est là à la réunion, eh bien, le seul qui s'est endormi dans cette longue réunion, ce n'est pas un vieux, c'est un jeune. Et qui c'est qui est tombé par terre? C'est un jeune. Et qui c'est qui, humainement parlant, pouvait mourir? C'est un jeune. Et qu'est-ce qui a relevé le jeune de la mort? C'est Paul qui est descendu et qui l'a ramené dans l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, mes frères et sœurs, on doit veiller pour que le sommeil ne nous touche pas. On doit... Au fait, qu'est-ce qui nous endort? Qu'est-ce qui a pu endormir Eutychus? Ben, c'est les longues choses. Quelque chose qui n'en finit pas. Vous avez remarqué, quand quelque chose ne finit pas, vous regardez à la télévision, par exemple, et vous entendez une voix off. Au bout d'un moment... Votre femme vous dit, hé, tu dors? Non, je pense. Oui, mais ça n'existe pas, alors on va aller plus loin. Oui, le temps, mes frères et sœurs, est là. Et touche surtout quand on est spectateur. Mais touche rarement quand on est acteur. Au culte, suis-je un spectateur ou un adorateur? Malheureusement, aujourd'hui, dans notre siècle, beaucoup de cultes ne sont plus des cultes, mais des concerts. Et dans un concert, on ne parle pas, on ne chante pas, on ne fait qu'une chose. Ou on applaudit, ou l'on dort. Mais nous ne sommes pas appelés à venir à un culte concert. Un culte à l'Olympia avec Gilbert Bécaud. Nos églises, nos cultes matin, ce n'est pas des spots lumineux, de la lumière psychédélique, de la poudre de perlimpinpin pour nous faire penser aux nuages, tout ça, mes frères et sœurs, c'est une méthode qui déshonore le Saint-Esprit. Non, sincèrement, hein, sincèrement. Or, ce que je remarque ici, dans la parole de Dieu, c'est que le danger de s'endormir, et c'est pour ça que ces cultes-là, concerts, ont beaucoup de succès, parce qu'ils ne demandent rien. La seule chose qu'ils demandent, c'est des applaudissements. Mais quand Jésus faisait quelque chose de magnifique, les gens n'applaudissaient pas toujours, il écrit, mais ils glorifiaient Dieu devant ce qu'ils avaient. J'ai cherché le mot applaudir dans le Nouveau Testament, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Amen, gloire à Dieu, il est vivant et c'est glorifié. Ça, je l'ai trouvé. Et c'est ça que je veux vivre, mes frères et sœurs. Parce que le reste, c'est peut-être pas mal, mais c'est pas ça. C'est le monde qui le fait. Et nous ne sommes plus du monde. Nous avons trouvé une autre dimension, une dimension céleste. Et nous voulons regarder le Seigneur qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des serviteurs et nous sommes des adorateurs. En esprit et en vérité. Alors, l'Écriture nous dit, quand ils furent réveillés, alors, ils virent la gloire de Dieu. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'il n'est pas plutôt écrit? Quand Jésus les réveilla, non, mais s'étant tenu, et vous, ça c'est une décision du cœur, c'est une décision du cœur, c'est pas la faute de ceci, de ça, c'est une responsabilité personnelle. Ils se sont tenus volontairement, et ça plaît à Dieu. Ils n'étaient pas obligés, mais ils se sont tenus. Et quand ils se sont tenus éveillés, l'Écriture nous dit, ils ont vu la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, ne blâmons pas ceux et celles qui s'endorment à nos réunions. Mais, on dira, mais quand même, frère Aro, quand même, Pierre et Jean, dans une réunion de prière pareille avec Jésus, physiquement, ils s'endorment. Oh, eh oui, mes frères et sœurs, le plus spirituel d'entre nous n'est pas à l'abri d'un coup de sommeil. Pas vrai? Mais Daniel, le grand prophète Daniel. Quand il a vu la gloire de Dieu, il est tombé comme mort, comme endormi dans un profond sommeil, nous dit la Bible. Mais le Dieu vivant et vrai a posé sa main. Il lui a parlé, et comme il me parlait, dit Daniel, tout ça s'est revenu, la vie est là. Alors ma sœur, mon frère, si tu t'es endormi jusqu'à maintenant, ne te culpabilise pas, ne frappe pas ta poitrine, mais ce matin, tiens-toi éveillé. Et si tu te maintiens éveillé, tu entendras cette promesse. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ te corrigera, et il t'éclairera. Ô Jésus, ce matin, éclaire-nous, s'il te plaît. Et accorde-nous cette grâce. Oui, frères et sœurs, je pense qu'il était nécessaire pour les apôtres d'avoir cette vision, de voir la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas des fantômes, c'était vrai, c'était réel, c'était puissant. Ce qu'ils ont vu, ils l'ont vu. Ce qu'ils ont entendu, ils l'ont entendu. Et ils ont même vu deux hommes. Vous avez remarqué? Il n'est pas écrit. Et ils virent la gloire de Jésus et de Moïse et d'Élie. Non, non. Ils virent la gloire de Jésus et deux hommes. La gloire ne nous appartient pas, mes frères et sœurs. La gloire est à Jésus. Et ce qui est important quand on vient au culte, c'est pas dire un tel y a parlé, un tel est bien prêché. Un tel, ce sont des humains. Mais se dire ce matin, j'ai vu Jésus. J'aime Jésus. C'est lui, mes frères et sœurs, qui est essentiel. Et le Saint-Esprit est sage, il ne dit pas, il vit Moïse et Élie avec Jésus dans la gloire. Ils virent la gloire de Jésus et deux hommes. Et écoutez bien, deux hommes. Deux hommes transparents. Deux hommes réels. Ils les ont connus. Deux hommes réels, deux hommes qui avaient vu, deux hommes qui vivaient, rien de gloire. Pourtant, c'est vrai. Frères et sœurs, c'est vrai. Moïse, pas moi, hein, mais Moïse, qui avait parlé avec Dieu, et qui un jour a même dit à Dieu, reprends-toi. Il faut le faire. Hein, parce qu'Israël avait péché. Et Dieu voulait juger Moïse. Élie. Frères et sœurs, ces deux hommes tout à fait exceptionnels veulent nous rappeler qu'il ne reste que des hommes. Mais l'homme qui est au-dessus de tous les hommes, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Ne l'oublions jamais. Même ceux qui ont été pour nous des bénédictions, il ne faut jamais tirer la gloire à l'homme. Tenez, en plein Jérusalem, Pierre prend un boiteux avec Jean. Elle lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ah! Les gens étaient tout à fait étonnés. Et alors, toute la foule accourait. Et aussitôt, Pierre dit, c'est pas par nous. C'est pas par notre piété. C'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié. Regardez, Pierre qui, je crois, va rentrer dans une maison. Dans la maison de Corneille. Corneille qui est un homme spirituel. Et quand il voit Pierre, il se met à genoux. Pierre l'empoigne. Relève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Et tout ça, ça plaît à Dieu. Ce qui a tué Satan, c'est l'orgueil. Ce qui peut nous tuer, nous, en tant que pasteurs, c'est l'orgueil. Ce qui peut tuer les anciens, c'est l'orgueil. Ce qui peut tuer n'importe lequel d'entre nous, c'est quand on se gonfle. Non pas à nous, mais à toi, Éternel. Sois la gloire. Au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, c'était important. Et pauvre Pierre, et ben, il s'est trompé, il a voulu dire une chose formidable. Il dit, ben, écoutez, vous êtes trois, ben, on va aller chez Décathlon, et puis on va vous construire trois tentes. À fond, la forme. Et le Saint-Esprit lui dit, il ne savait pas ce qu'il racontait. Parce qu'il mettait Moïse et Élie au même niveau que Jésus. Mais personne n'est au niveau de Jésus. Il est au-dessus de tout nom, de toute autorité. Et si c'est ça dans votre vie, mes frères et sœurs, vous aurez toujours, toujours le dernier mot par la grâce de Dieu, s'il est le premier et nous en second. Et puis je voudrais terminer en disant que cette expérience a été utile. pour eux, les apôtres, de voir qu'il y a une différence entre l'homme et Dieu. Et ils ne virent que Jésus seul. Bien, c'est aussi important pour nous de ne voir que Jésus seul. Moïse, spirituellement parlant, c'est une étoile, non ? Dans l'Ancien Testament, c'est une étoile, elle apporte la lumière. Aujourd'hui, on dirait, c'est une star. Élie, aujourd'hui, on dirait, c'est un leader. L'Écriture nous dit, c'est deux hommes. Savez-vous pourquoi ? Eh bien, faites une expérience. Vous allez être bientôt en vacances, ou même pas en vacances. Quand le ciel parisien va vous le permettre. Je ne vous dis pas de venir en Normandie, mais donc quand le ciel parisien va vous le permettre. Quand le ciel de la Martinique va vous le permettre. Levez les yeux. Levez les yeux, oui. Regardez. Regardez la nuit. Et qu'est-ce que vous allez voir ? Des étoiles qui brillent. Et vous allez dire, Dieu Tout-Puissant. Quand je pense que tu donnes un nom à tout ça, que tu n'as pas besoin de la NASA pour mettre sur orbite, ça, tu sais tout ça, Seigneur. Quand je pense à ça, bon, vous restez en place. Vous dormez. Le lendemain matin, sous le soleil, où sont les étoiles ? Pourquoi vous ne les voyez plus ? Existent plus ? Si, mais le soleil les dépasse en lumière. Jésus, tu es le soleil de ma vie et je veux louer, te bénir et célébrer ton nom. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas des rêveurs. Nous sommes des serviteurs et des adorateurs. Nous sommes éveillés. Et regardez que le ciel est descendu sur la terre pendant que Jésus priait. Il était déjà descendu pendant que Jésus était baptisé et qu'il priait. Le ciel s'est ouvert pendant qu'il... Et je disais ce matin, très tôt le matin, Seigneur, j'aime bien, parce qu'on est tout seul avec lui. Il dit, Seigneur, si tu voulais permettre que la porte dorée ce matin, tu te glorifies pour nos frères et sœurs qui sont abattus, fatigués, découragés. Seigneur, révèle-toi à ceux que Satan a câblés. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi d'eux, afin qu'ils ne voient pas nous et nos prédications, mais qu'ils te voient toi, mon Jésus. Mon Jésus, mon seul sauveur, mon seul Seigneur. Oui, mon Jésus, je t'aime, car Dieu veut que par la grâce de Dieu, nous soyons tous réveillés. Et surtout, pour prier. Ne pas attendre, mais pour prier. Surtout pour chanter de tout notre, des louanges, du Seigneur. Et puis pour communier, le Seigneur nous invite tout à l'heure à sa table. Et vous savez, quelqu'un qui dort ou qui s'endort, il hoche la tête. Est-ce que ça se fait quand on est invité à une table ? Ah oui, 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 oui. Et, non, mais vous imaginez Jésus à table avec nous pendant la Sainte Cène ? Rempli d'eau et entouré par des gens qui hochent la tête. Mais c'est pas possible, ça. Seigneur, réveille-moi. Parce que mes frères et sœurs, quand on dort, on ne discerne plus rien. Mais quand on est à la table et réveillé, on discerne le corps du Seigneur. Et ça, c'est pas un jugement qu'on prend, c'est une bénédiction éternelle. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, ne prends pas la Sainte Cène avec une tête endormie. Ça déshonore Jésus-Christ. Prends-la, bien réveillée, en lui disant, mon Jésus, je t'aime. Je mange ta chair, je bois ton sang. Je suis à toi, tu es à moi. Nous sommes ensemble pour t'adorer. Oui, voilà ce que le Seigneur veut que nous connaissions, tout simplement. Mes frères et sœurs, je voudrais terminer par cette parole. Réveille-toi, toi qui dors. C'est pas suffisant ? Virgule. Réveille-toi ! D'entre les morts. Alors là, tu étais plus qu'endormi. Hein. Réveille-toi, secoue-toi ! N'attends pas que le Seigneur te secoue. Secoue-toi. Voilà. Et Christ t'éclairera. Ô Jésus, ta lumière, ce que j'en ai besoin. Et l'apôtre Jean, je vous le disais tout à l'heure, il avait gardé ça pendant 80 ans dans sa tête. Hein. Puisqu'elle a écrit son épître 80 années après. Il écrit, il dit, nous avons contemplé sa gloire et nous avons touché son corps Et nous voulons que vous soyez en communion avec nous. Et nous avec vous, et vous et nous avec lui. Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Voyez-vous ce qui est écrit sur l'écran? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont d'accord avec ce qui est écrit là?
Amen.
Voulez-vous le dire?
Oui.
Mieux, voulez-vous le chanter?
Oui.
On essaye? Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Qu'est-ce qui se passe? Les plaisirs. Ne m'attire plus. Qu'est-ce qui m'attire? Et ce chant dit dans la quatrième estrophe, parce qu'il n'y en a que quatre, mais j'ai chanté la dernière. Je verrai ta face, mon Jésus. Je verrai ta face. Lisez, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Voudriez-vous le chanter avec moi? C'est un cantique qui a été écrit par Gustav Isely à l'autre siècle, qui était un major de l'armée du salut, parce qu'il était là dans la nuit, très très tôt dans la nuit, le Seigneur lui a donné les paroles sur cette belle musique. Mon Jésus, je t'aime. Je verrai ta face, on y va? Je
verrai.
Quel ravissement. La bouche. Je
loue.
Quand?
Alléluia.
Et dirai sans cesse avec les élus. Qu'est-ce que je dirais là-haut? Bon sauveur, mon bon sauveur, que je t'aime tant. Du fond de mon cœur, je voudrais te dire toute la vérité. Je voudrais te dire, je voudrais toute la vérité, toute la vérité. Laquelle? Je t'aime.
Jesus Christ,
ouais. Merci, Seigneur.